Soyez les bienvenus avec Leïla Kadouchadi,
Morgane
Cadignan, Guillermo Guiste, Tanguy Pastoureau,
bonjour.
Daniel Mort,
ouais, pas sûr.
Et nos invités Victoria Abril et Lionel Astier.
Oh oui.
Bon, on va prendre des nouvelles du terrain. Leïla, comment ça va?
Ça va super. J'ai plus de nez, mais tout va bien.
Si seulement ça pouvait m'arriver.
J'ai succombé.
On ne me reconnaîtrait pas. Morgane, une petite frisquette.
Tout va bien.
J'ai
pas chaud. Écoutez.
Un petit giboulet.
Mais tout va bien.
Je crois qu'il fait 6 ou 7 dehors.
Il caille.
Elle a mis une petite laine.
Daniel?
Ben moi, bizarrement,
la
ça va.
Patate.
D'habitude,
Morgane,
c'est moi qui suis un petit peu à
fragile.
Non, non, mais là, on a les deux mamies. Avec le châle, le nez qui coule.
Ouais. Guillermo va venir nous rejoindre. Merci au Thalys d'arriver à l'heure. Et
surtout à lui, le train arrive à l'heure. Hein. C'est lui qui est retardé souvent.
Il va sûr, on sera là tout à l'heure pour parler avec nous tous donc de la pièce jouée par Victoria Abril et Lionel Astier. Drôle de genre. Une pièce extrêmement drôle. C'est la première pièce de Jade Rose Parker qui joue. D'ailleurs, dans cette pièce mise en scène par Jérémy Lippmann, ça se passe au Théâtre de la Renaissance jusqu'à la fin du mois d'avril. Extrêmement drôle, on va en parler.
Ah, ça nous a retourné.
Ouais.
C'est le mot.
C'est vrai. Tout est.
C'est le mot.
Toute la pièce
c'est bien rendu, Daniel.
Ouais.
C'est tout pour moi.
Qui chante ça?
Leïla, oui. Charlie's Angel. C'est thème.
Bien joué.
Drôle de dame, exactement.
Ouh. Oh, vicieux.
Alors, moi, j'adore. Charlie's Angel,
on dirait du Dalida.
Ça me rend dingue.
Ça, c'est la version un peu up-tempo Disco Fever. Quoi. Les boîtes ont réouvertes, donc on sort la version électro.
Oh,
qui chante ça?
Leïlan.
Oui.
Sanson. Véronique.
Oui.
Franchement, c'est sur le fil. Je lui donne. Et ça me fait plaisir.
C'est pas parce que tu ressembles à la Vierge avec ton châle que tu vas avoir rien tout de suite comme ça.
Ah, c'est pas, j'ai pas la même image, moi.
Mais toi, t'es dégueu aussi.
Non?
Quoi?
J'avais plus âgé que le. Alors, qui chante ça?
Morgane. C'est Linda Lemay?
Oui.
Ah, bravo.
Quand
il y en a des pires que toi, ceux qui se prostituent. Bravo. Sous n'importe quel doigt, sur n'importe quelle rue, en disant des sottises pour des questions d'argent. C'est quoi le titre?
Drôle de mine. En fait, il y a drôle dans le titre, tout simplement.
Ah, d'accord.
Qui chante ça? C'est pas simple. Ouais.
Goldman?
Non.
Morgane?
Oui.
Clara Luciani?
Non. Écoutez la voix.
Morgane?
Oui.
Christophe?
Joli.
J'ai pas entendu. Devant
vous. J'ai même pas entendu, moi. J'entends rien.
Écoute.
J'ai juste entendu.
Merci. Morgane, Christophe?
Écoute. Tu vois? Merci, Morgane. Caché,
c'est là. Oui, c'est un vieux titre.
C'est quoi le titre?
Drôle de vie.
T'entends pas?
Qui chante ça?
Leïla?
Oui.
C'est Clara?
Oui.
mais j'avais drôle d'époque dans la tête, je suis pas sûre de la.
Mais Clara qui?
Je me suis dit, mais c'est bizarre que tu réagisses pas. Donc je me suis dit,
drôle d'époque. Comme tu l'avais proposé juste avant.
Oui, mais j'avais le titre, mais j'avais pas.
Il y a un piège.
J'avais pas le son.
Ok.
Qui chante ça?
Waouh, Daniel, c'est pour toi.
Ouais. Mais je kiffe le moment.
Ah oui, t'attends. Ouais. T'attends.
On dirait du Dalpech.
Leïla.
Leïla.
C'est Sardou.
Non, Daniel.
C'est Johnny.
Daniel. Johnny.
Mais non. Pardon.
Michel Hallyday.
Drôle de métier.
Jean-Philippe Sardou.
Je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y a des Jean-Philippe Sardou.
Sûrement.
Oh
des Nagui Sardou, beaucoup moins.
Beaucoup moins. Il y a eu une interruption volontaire.
On va le rencontrer.
On a prolongé le délai.
Attention, c'est le Super Banco. Déjà.
Allez.
4 points et donc une victoire pour l'instant. Leïla est en tête avec 3 points. Morgane 2, Daniel 1. Qui chante ça?
Morgane.
Oui.
Romeo Elvis. Je la connais par cœur.
Mais c'est pas possible.
C'est la première qui est sortie de lui en France.
Mais attends.
À l'époque.
Sur une
accord de guitare. Question, bien sûr.
Oh là.
En même temps, elle est tellement bien.
Non mais reconnaître sur une note de guitare, c'est fort.
J'en connais aucune de lui.
Mais si. J'ai tort.
Zéro. Non mais j'en connais aucune. Donne-moi quoi tu connais. Une sorte de dauphin
sophistiqué. Ça permet une victoire à Morgane Cadignan pour bien démarrer cette semaine. Et merci d'accueillir Victoria Abril et Lionel Astier.
France Inter.
Hello.
bande originale.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Tout va bien?
Si, gracias.
Bon, tout va bien. Victoria Brionnas, on est ravis de vous accueillir. On a tellement ri avec Drôle de genre, cette pièce qui est une première et qui est une création, signée Jade Rose Parker, qui joue sur scène d'ailleurs à vos côtés. Mise en scène par Jérémy Lippmann. D'ailleurs, cette mise en scène ouvre, je suis désolé Lionel Assier, c'est de la politesse, mais surtout c'est l'impressionnante souplesse.
Cette souplesse de Victoria. Mais toujours.
Toujours.
Depuis que j'ai 8 ans, la souplesse dans ce métier, c'est...
C'est pas de danse. Alors, au début, c'est en ombre chinoise, on peut se dire, ok, c'est un trucage, il va y avoir... c'est une cascadeuse qui fait ça. Et pas du tout. C'est l'élégance et la souplesse de Victoria Abril.
Oui, parce que pour Carla, on l'a donné... C'est une tragédie. Hein, c'est une tragédie pour Carla. C'est une comédie dans la salle, mais c'est une... Et tout ça dans...
Ah, moi, j'allais dire, c'est une tragédie pour Lionel Astier, pour votre personnage.
Mais c'est peut-être une révélation.
C'est pas une tragédie, non. C'est plutôt une révélation. La tragédie, ouais. C'est pour moi que je vais tout perdre. Ah, ouais. Mais bon, donc, cette tragédie...
Elle ne pense qu'à elle.
Non, c'est pas vrai.
Enfin, Lionel, vous avez pris du plaisir toutes ces années.
J'ai dit qu'il fallait absolument d'avoir la minute heureuse.
Oui.
Au début, oui. En classique. Donc, Carla, c'est un signe, tu vois, qui rentre sur scène en volant et qui part à la fin en volant. Lac des Cygnes.
Il y a plusieurs versions d'ailleurs du Lac des Cygnes dans le parce que quand la situation s'énerve et quand Lionel Astier a envie de faire exploser les tympans des voisins aussi et des siens.
Olé, 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 olé.
Quelle souplesse aussi, excusez-moi.
Ah oui. C'est
alors, c'est
vrai.
Pas la même.
Alors, c'est pas non plus une souplesse d'esprit. Parce que, alors, vous, votre personnage, vous êtes. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut dire et ne pas dire de la pièce.
Tu peux tout dire parce qu'on l'a déjà
on
tout
peut tout dire.
C'est un homme politique à 2 semaines des élections, en avant sur les sondages, qui apprend, par une malheureuse arrivée du. La lettre des laboratoires médicaux.
Non, pardon.
Que sa femme, il a un cancer.
Avant d'arriver à cette lettre, à cette révélation, quel homme politique? C'est-à-dire, on sent l'intolérance sommeiller en lui. C'est la manière dont il ne veut pas s'ouvrir aux autres candidats.
C'est un spécialiste qui vous parle. Ah.
Ouais. C'est pas le mec le plus souple du monde. Il n'est pas d'une grande souplesse, lui, pour le coup.
Il est une souplesse comme tous les hommes politiques, il a un avis sur tout. C'est-à-dire, ça n'existe pas d'un politique qui vient sur un plateau ou dans un studio de radio et qui n'a pas de réponse à une question. Ouais. Donc, il a un avis sur tout. Donc, il a un avis aussi sur l'homosexualité, la transsexualité, enfin sur l'écologie.
Mais déjà sur la politique, on est à droite, on est à gauche, on n'est pas au milieu. Il s'énerve sur les centristes.
Il s'énerve sur
le candidat centriste avec lequel il pourrait éventuellement s'allier, mais il n'a pas du tout envie de s'allier avec ce centriste qui l'affume d'une insulte d'ailleurs homophobe, parce que c'est le comportement du mec est extrêmement violent. C'est-à-dire, on dit c'est le gros beauf, quoi. C'est-à-dire c'est le mec qui a réussi, qui parle mal. Si,
non, j'ai vu sa tête se décomposer un peu, genre c'est le gros beauf.
Non, mais c'est ça la pièce est
une. T'as une opinion avec ta guide,
l'intolérance. Enfin,
oui, peut-être, oui, c'est mais en tout cas, non, mais moi si je le joue comme ça, je le joue plus. Donc moi je le défends. Donc effectivement, c'est un type qui apprend, et je vous rappelle qu'il l'apprend en même temps que le public. C'est-à-dire qu'il n'a aucun recul sur la situation.
Voilà. Donc
30 ans de mariage, aucun recul sur la situation.
On y arrive. Qu'apprennent-ils justement une catastrophe. Ils s'apprêtent à sortir tous les deux pour aller à l'opéra, justement assister à une représentation du Lac des Cygnes. Carla ouvre son courrier. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que c'est par malice que c'est l'homme est politique et la femme est Carla?
Je pense qu'il y a
un petit clin d'œil. Carla,
je n'ai pas compris la question.
Que cette femme s'appelle Carla.
Oui, ça se llama Carla, mais avant elle était Carlos. Hein.
Oui, mais
lui, il est politique.
Première dame qui s'appelait Carla.
Politique et Carla, ça a déjà été fait.
Il faut dire avant qu'on nous ferme les théâtres que cette pièce est écrite en 2017.
Et alors
c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore aucune fake news, aucune rien du tout. D'accord. À voir avec.
Oui, mais elle existait déjà.
La coïncidence.
Elle est née après 2017.
Oui, c'est pas ça. Je parle de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy.
Oui. Ah d'accord.
Voilà, donc elle est pas oui. Oui, moi je m'appelle François.
C'est ça.
Donc ce serait un peu comme si Carla vivait avec François Hollande. On ne sait pas,
En tout cas, il faudra couper au montage, Nagui.
Non, c'est pas grave. Non, mais on voit qu'on est en tout cas ancré dans une éventuelle réalité, en tout cas dans une possibilité, celle de recevoir une lettre d'un laboratoire qui annonce une mauvaise nouvelle. Ouais. Cette mauvaise nouvelle est qu'elle est malade. Alors, la première mauvaise nouvelle, est-ce que c'est le Covid? Est-ce que tu es positive au Covid? Ça, c'est une vanne très temporelle, ouais. On va dire, y compris la manière dont vous mettez plusieurs masques pour vous protéger avant de sortir.
3-3, au cas où, hein.
Un par
picus.
Oui, mais d'ailleurs, je sais pas comment vous allez faire à partir de cette semaine où les masques. Il n'y a plus de masques dans la salle.
On est déjà depuis lundi dernier.
C'est vrai.
Attends, je les ai filmés, hein, j'ai posté des. Tu sais ce que c'est, 600 personnes sans masque, j'ai jamais vu ça depuis deux ans.
Si, on l'avait vu, mais.
On avait oublié.
600 personnes sans masque.
Ah, non, on l'avait vu. Si, moi, je suis plus vieux que toi. J'avais vu,
dans l'absolu, on a déjà vu.
Depuis deux ans.
Oui, depuis deux ans. Mais
on n'a pas vu 600 personnes sans masque en train de t'applaudir.
En fait,
depuis deux ans.
Ils sont à la ville comme à la scène. C'est assez intéressant. Et vous continuez de garder le masque sur scène ou pas d'ailleurs?
Non, je l'enlève à la première minute quand il me dit enlève ça.
Est-ce que vous le faites quand même? C'est-à-dire malgré.
Oui, pour qu'il puisse me dire enlève ça, on comprend rien.
D'accord. Non, mais comme l'auteur n'est pas très très loin non, dans la pièce,
les masques, c'est moi qui l'a mis. D'accord. C'est pas l'auteur. C'était pas écrit. Il y avait pas ça. En 2017, ça n'existait pas.
C'était une proposition que vous avez faite dans la mise en scène et dans le jeu.
Revenons à cette lettre de labo.
Oui, recevant une lettre annonçant une mauvaise nouvelle, en l'occurrence un cancer. Mm. Évidemment, c'est une catastrophe. Mais quand une femme reçoit une lettre lui annonçant qu'elle a un cancer de la prostate, là, ça devient évidemment.
Voilà, elle peut pas faire autrement. Essayer de lui faire comprendre à l'amour de sa vie, parce que c'est son prince charmant.
Depuis 30 ans,
c'est un couple qui s'aime, et c'est grâce à ça qu'on va passer d'une intolérance. Déjà, le premier, François, même les publics, hein, parce que qu'est-ce que j'en prends dans la gueule, comme rire, tu sais, des moqueries, évidemment, il apprend ça, donc, voilà. Ma femme est un homme avec une bite à l'envers, enfin, j'entends de toutes les couleurs, mais il faut que je te dise que dans le deuxième acte, fin du deuxième acte, quand je demande au public, parce que et le mur, le quatrième mur, on l'a fait sauter.
Vous le faites exploser, parce que vous adressez au public et vous faites un vote comme Robert Hossein pouvait par moment demander au public de voter si coupable ou pas.
Et à chaque fois, même les jours les plus réacs avec le public, les plus réacs, c'est-à-dire avec François et contre Carla. Les plus réac. À la fin de la pièce, quand j'ai, dans mon petit monologue, je demande aux gens, mais vamos saber, est-ce un crime d'être ce que je suis? Et je te jure que plus de la moitié de la salle disent non.
La moitié, quoi?
C'est déjà beaucoup parce que la pièce commence. La pièce est thérapeutique, c'est-à-dire tu commences comme tout un chacun en ayant tes intolérances, en préférant lui qui est pas elle, etc. Et vers la deuxième partie. Quand il y a l'amour et ces couples s'aiment et on veut pas qu'ils se séparent, les publics arrivent à la tolérance parce qu'ils veulent pas qu'ils se séparent. Donc ils se rendent compte qu'ils ont passé de l'intolérance à la tolérance.
C'est vrai que c'est une
du respect de l'autre.
C'est une comédie et comme toute comédie, on rit du malheur des autres.
Voilà.
Et les deux sont dans une forme de malheur. Elle déjà parce qu'elle est atteinte par cette maladie et qu'elle est obligée de.
Elle a la double peine.
Elle est obligée d'outer. Et de révéler une opération qui lui a permis de se sentir mieux dans son corps en ayant le sexe qu'elle voulait avoir de sa décision propre. Lui, fou, amoureux pendant 30 ans, même s'il a été
infidèle.
Oh, oui. Alors, on a beaucoup exagéré l'infidélité.
Non, on n'a pas beaucoup exagéré.
Il y a cette phrase formidable, elle dit « Oui, je t'ai trompé plusieurs fois, mais au moins ça m'a permis de coucher avec des femmes et pas qu'avec un transsexuel. » pendant des années.
Mais c'est l'optimisme politique. Hein.
C'est fou, ah, c'est ça. C'est le point de vue.
Positif.
C'est tout dépend de l'angle. Et puis, il y a votre fille que vous avez adoptée, voilà, et qui elle-même va connaître une histoire d'amour tumultueuse et à rebondissement, et pas avec n'importe qui, puisque c'est avec le fameux centriste tant détesté par Lionel Lastier. Tout ça est extrêmement drôle.
Et Jade Rose Parker, donc l'auteur, qui n'a que 30 ans, hein, il faut le dire, parce que
nous, quand on a lu
et qu'on ne savait pas qui avait écrit, on ne pensait pas avoir une...
Non, vous pensiez même que c'était un auteur anglais, dans le sens du mot.
Anglais, puis de 50 ans, enfin quelqu'un qui avait quand même vécu, parce qu'il y a une maturité dans l'écriture. Alors elle parle d'une pièce sur l'identité. Bien sûr, le sujet, ça peut être le transgenre, la transsexualité, mais l'identité de la fille aussi.
Oui.
Qui ne connaît pas ses parents biologiques, l'identité évidemment de Carla et l'identité de cet homme qui perd tous ses repères, parce que non seulement bien sûr il y a l'histoire d'amour, mais elle n'est pas pour rien dans sa réussite politique, elle l'a quand même porté à bout de bras, cet homme-là.
Oui, et c'est surtout un discours sur la tolérance, sur toutes les formes de tolérance, d'acceptation de soi et de l'autre. Exactement. Ça s'appelle Drôle de gens, c'est extrêmement drôle, c'est au Théâtre de la Renaissance avec Victoria Abril, Lionel Astier, Jade Rose Parker, on a cité tout le monde sauf Axel
Huet. Axel Huet, formidable.
Et Jérémy Lippmann, qui est ce brillant metteur en scène, pour vous accompagner au Théâtre de la Renaissance jusqu'au 30
Non, maintenant, avril. on a comme ça, beaucoup de succès, on a allongé jusqu'au 14 mai.
Très bien, formidable.
Ouais. Parce qu'à partir de lundi prochain,
tellement contente.
Les passes vaccinales sont suspendues. Il va nous le remettre après, hein, mais au moins pendant un mois, on va pouvoir faire Drôle de genre pour tous. Venez.
Très bien, voilà, l'annonce est faite. On est ravis de vous accueillir, Victoria et Lionel. Nous sommes ravis de vous accueillir. C'est pas le cas de tout le monde, parce que voici Morgane Cadignan et elle ne vous aime pas. Elle ne vous aime pas du tout, Morgane.
Non, Lionel Astier, Victoria Abril. Je vous aime pas, Victoria Abril. Il y a tellement, tellement de Pedro Almodovar, de Vicente Arenda, de Francisco Lara dans votre biographie que moi j'ai un peu envie qu'on tamise la lumière et qu'on fasse toute la chronique en espagnol. Seul problème, à l'époque j'ai fait allemand LV2 et vu le contexte actuel un peu tendu, parler allemand en direct à la radio, il y a quelques vieux que ça peut faire paniquer et donc je vais pas le faire. Et dans la pièce, votre personnage, donc il reçoit un courrier lui annonçant un cancer de la prostate, ce qui, je suis pas chirurgien, mais reste un attribut assez masculin, je crois. En général, si ta femme a une prostate et que tu le découvres au bout de 30 ans, c'est qu'au premier rendez-vous, elle n'a pas été totalement transparente, ni physiquement, ni moralement. À la question au vert, et toi, tu faisais quoi avant? Au lieu de répondre du marketing digital, elle aurait dû répondre pipi debout. Enfin, une reconversion un petit peu intéressante, hein, parce que les chefs de projet qui deviennent potiers, moi je préfère un homme qui devient une femme, au moins on passe un verre cool, quoi. Et avant de me faire cancel, parce que je les vois les twittos en embuscade, je précise qu'il n'y a pas de souci à changer de sexe à un moment dans sa vie, mais c'est vrai que c'est une info qui peut être un peu utile à la personne que tu épouses. Et en vrai, j'ai hâte qu'on vive dans un monde où la première dame a été un homme avant, ou que la première dame soit un premier homme, pourquoi pas, mais bon. Vu qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui font des blagues sur l'âge de Brigitte Macron, je crois qu'on a 2 secondes avant de voir ça arriver. Je dis ça parce que ça m'est arrivé dans une soirée ce week-end. J'ai encore entendu ça il y a pas longtemps, genre, Brigitte Macron, c'était sa prof. Mais noie-toi dans ton Moscow Mule, putain. Est-ce qu'on peut s'en remettre à un moment de cette information,
un jour,
quoi?
Ouais.
Moi, si je pouvais épouser Nagui, avec qui j'ai 30 ans de différence, bah, je le ferais pas, mais uniquement parce que c'est Nagui. Rien à voir avec l'âge. Rien à voir avec la gériatrie, quoi. Donc, c'est encore un peu nouveau, donc la question du genre, ça pique un peu, comme la barbe de ta femme parfois. Moi, si je découvrais un jour que mon mec avait été une femme, t'as quand même 5 minutes de « Ah, mais c'est pour ça que je jouis autant !» Tu vois, là, je me disais, tu t'en sortais bizarrement bien pour quelqu'un qui a une bite depuis le début. Alors, Lionel, dans cette pièce, je sais pas si vous gagnerez la présidentielle, mais on s'en fout, parce que pour moi, vous êtes déjà le roi Léo Dagan de Carmélide, et pour beaucoup d'autres, et du coup, j'ai encore un peu de plaisir, et beaucoup même à vous voir râler, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle pièce ou dans n'importe quelle série. Cette pièce, elle est très drôle, elle se joue au Théâtre de la Renaissance, qui est un bon nom pour parler de votre personnage, Victoria la Renaissance, qui est passée dans sa jeunesse de Carlos à Carla. Et je vous dis pas autour de la table qui a eu le même destin, mais disons qu'il y a une époque, quand la maison de la radio était encore l'ORTF, on pouvait dans les couloirs sentir les effluves sucrés d'une certaine Daniela Morena. Et à l'époque, elle agitait déjà son déhanché au son des chariots de feu. À vous de deviner de qui il s'agit.
Merci, Morgane.
Daniela.
Le lac des cygnes qui est aussi entouré de d'une forme de d'amour évidemment, de sexualité, c'est Tchaïkovski, on a un tout petit peu
et puis il y a la mort du cygne aussi,
la fameuse mort du cygne. Et vous avez déjà l'un de vos premiers rôles au cinéma a été un transsexuel.
Oui, c'est pas le premier, c'était le cinquième, mais c'était mon premier avec Vicente Aranda et c'est le film qui m'a décidé d'arrêter la danse que je faisais depuis des 8 à 14 ans, arrêter la danse classique et faire ce métier parce que j'ai compris avec ce film, moi qui étais une fille qui voulait être un garçon, enfin pas sexuellement, mais plutôt je voulais avoir les droits d'un garçon, ouais. et je l'ai compris très bien. Et c'était mon premier film avec Vicente Aranda, après on en a fait 14, des 14 à 44 ans, jusqu'à qu'il est mort. Donc c'est ces films... Et c'est grâce à ces films que je suis comédienne au lieu d'avoir essayé d'être ballerine.
Je veux être une femme, c'était le titre
oui,
du film.
Oui, je veux être une femme. Sauf que cette femme, elle mourait, c'était années 76, hein, il fallait du culot. Hein. Il venait juste de mourir le dictateur. Donc, il essayait d'être une femme et il finissait à Casablanca, parce qu'évidemment c'était interdit à l'époque. Donc il finissait à Casablanca, dans un bloc opératoire, et elle perdait la vie en essayant d'être une femme. Oui. Là, avec drôle de genre, cette femme, elle a vécu,
c'est la
renaissance. Heureusement, mariée avec François, elle a été mère, adoptive, et elle a été mère, c'est-à-dire, c'est la réussite. Donc pour moi, c'était importante ces revanches.
D'ailleurs, pour en revenir à ce que disait Morgane tout à l'heure, au-delà du clin d'œil fait au théâtre de la Renaissance, et c'est vrai qu'il y a une question de renaissance dans cette pièce, vous postulez à une élection, mais pas présidentielle, c'est plutôt municipale, non ?
Une mairie, c'est un peu.
C'est ça.
Ouais. C'est l'équivalent de la mairie de Paris.
D'accord. Quand même.
T'as vu, il le dit avec fierté. Attendez, pardon.
Ah ouais.
Excusez-moi, mon petit bonhomme.
Les prénoms moins durs, on est là.
C'est ça. Non, mais les vannes sont évidemment là pour faire naître un doute. Est-ce que vous sentez, Lionel Esté, en fonction des soirées, puisque c'est un coup de pied dans la fourmilière, cette pièce, sur ce que l'on peut penser justement sur le changement de sexe, sur la politique, sur la fragilité ou pas de l'amour. Est-ce que le public rit aux mêmes endroits des mêmes choses ou il y a des rires par moments plus gênés que d'autres en fonction des opinions de chacun ?
Si, il y a quand même des rendez-vous qui demeurent,
efficaces,
enfin, qui perdurent, ouais. Comme ça. Mais sinon, moi je pense, enfin... On en est à quoi, combien de représentations ?
À 22...
Voilà, enfin,
4
voilà,
semaines.
20. Et en fait, on continue. Moi, enfin, personnellement, je continue de travailler sur le personnage.
De faire évoluer votre personnage.
Bien sûr, parce que au début, effectivement, il est un peu, voilà, même quand je l'ai lu, j'ai dit, bah, c'est quand même un connard, pipi. Et puis, petit à petit, je me dis, mais non, il est troublé, ce type-là, et il est
comme
amoureux.
Comme le serait n'importe quel homme, ouais. Qui apprend que sa femme, au bout de 30 ans, lui avoue avoir été un homme.
Mais pas seulement, c'est-à-dire troublé. Aussi, une fois qu'il a appris la vérité, il ne peut pas être complètement insensible, c'est pas vrai. Ouais. Il est troublé par cette double personnalité, mais il est encore amoureux.
Et c'est vrai qu'il y a un deuxième retournement, si vous me passez l'expression.
Et ça me permet en ce moment d'affiner ça et de rester encore perturbé, quoi. Plus que troublé, mais perturbé, je dirais. Ouais.
Est-ce que les réactions du public vous étonnent vraiment ? Vous disiez tout à l'heure, oh, c'est super, il y a au moins la moitié de la pièce qui est avec moi, ce que je trouve assez peu finalement.
Ah bah il y a des jours où il y en a pas, hein. mais c'est-à-dire la première partie, il y en a beaucoup qui ne se regardent que dans François. Ah oui, c'est quand même incroyable, elle l'a menti. J'ai même vu une fois après une fille de 30 ans qui disait ah non quand même lui mentir pendant 30 ans c'est impardonnable.
Mais c'est le mensonge.
Dis, mais attends, ça fait 30 ans qu'ils vivent dans le bonheur.
Moi je le ressens pas comme ça du tout.
Ah non mais moi on me l'a dit. Dans les bars, juste après la pièce.
Ah oui, parce qu'elle traîne dans les bars. Après.
Dans les bars du théâtre. Tu sais, on prend toujours un petit truc et les gens viennent te dire, la plupart des fois, quel moment de bonheur, et c'est vrai. Hein.
On parle du mensonge.
C'est le mensonge, finalement.
Oui, les mensonges dans les couples. Et il y en a qui pensent que c'est impardonnable. Que c'est impardonnable et qu'il a raison de me dire tout ce qu'il me dit, de me traiter comme il le fait, avec ses mots de respect, etc.
Il y a le contraire aussi, c'est-à-dire de dire... même s'il l'apprend là sur le moment, c'est-à-dire que on pourrait dire que si une semaine, la pièce se passe une semaine plus tard, il a plus le temps de mettre au point un discours, il a l'habitude. Mais là, non, il l'apprend en même temps et ouais. On dit mais ouais, il est pas très sympa quand même. Il pourrait dire enfin moi, ouais, moi j'ai ça aussi de mon
côté. Il est pas très fut-fut parce que c'est vrai qu'il il découvre que la prostate n'est que possible chez un homme et pas chez une femme.
Donc il écoute pas tout, je pense. Oui. Qu'il écoute pas vraiment.
Il va vérifier la glotte aussi. Il va essayer de tout comprendre.
Et il apprend quand même, c'est ça aussi qui m'aide un peu dans le... Vous avez raison, c'est-à-dire que quand disant, c'est pas tellement... Il apprend bien sûr que sa femme s'est appelée Carlos, mais il apprend aussi tout d'un coup, comme ça, comme un coup de poing dans la gueule, qu'elle a souffert.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle a souffert, c'est-à-dire que c'est un parcours du combattant.
Qu'elle n'était pas bien dans sa peau.
Et quand même, ça arrive parfois, c'est-à-dire que ça fait un mal de vivre, un mal-être qui peut aller jusqu'au suicide.
Et qui va parfois jusqu'au suicide.
Et elle a fait une tentative, et elle apprend ça d'un coup. Et c'est vrai que dans un couple, apprendre tout d'un coup,
c'est la souffrance de celle
double révélation, c'est-à-dire que aussi, il apprend l'existence d'une tragédie.
Un mal-être.
Voilà.
Et puis elle met le doigt sur un point important, est-ce que finalement c'est le fait qu'elle soit anciennement un homme qui pose problème ou que le monde autour de vous soit au courant de
sociétal,
ça
sociétal, c'est un problème.
Voilà. Oui.
C'est ce qui pense la société qui t'a fait penser, c'est que
le,
tu penses.
Oui, le regard des autres, surtout en campagne électorale.
Okay. Voilà. Mais c'est là où Jade Rose Parker, enfin, moi j'adore que sa vision, c'est-à-dire l'Anne a fait un homme politique, quitte forcément, est suspendu. Et en plus, le rival est là. Enfin bon,
il peut pas quitter sa femme, parce qu'en plus, tout le monde saurait qu'elle est malade, en tout cas. Et donc, on n'abandonne pas non plus une femme confrontée
avec
un cancer. Donc, en fait, il est un peu coincé.
C'est générationnel aussi. C'est un truc de génération qu'on n'acceptait pas à une certaine époque.
Ah oui, en plus.
Oui,
non, il a une phrase qui résume tout. Elle lui dit, tu me tiens pour les couilles, en somme.
Ça résume tout.
C'est soit j'étais au courant et j'étais un déviant, soit j'étais pas au courant et je suis un pigeon. Quoi qu'il arrive, je suis dans la merde.
Drôle de gens au théâtre de la Renaissance jusqu'au mois de mai, donc, avec Victoria Bril et Lionel Astier qui sont nos invités. Voici, merci Thalys, voici Guillermo Guiz. Désolé pour le retard. Je suis désolé. Non, mais tout va bien.
Ça va, les amigos?
Ouais.
L'autre jour, je lisais le Courrier International.
Voilà. Classe.
Moi, je laisse un peu de temps pour qu'on profite bien de tous de cette information, quand même, tu vois. Je le signale ici parce que je suis souvent vu comme quelqu'un de sympathique, mais intellectuellement, jamais vous mettez du respect sur mon nom ici. Hein.
Pourquoi?
Jamais. Parfois, Lila, elle pose une question sur l'actu culturel, je donne la bonne réponse, et dans vos yeux, c'est même pas de la surprise, c'est de l'effroi. Vraiment. C'était Ernesto, c'est toi! Il est possédé! Il est possédé! Donc, je lisais le Courrier International et je tombe sur un article intitulé Travaillez moins pour vivre heureux. Et là, je me dis chouette, un papier sur le parcours de Nagui, tu vois. Nagui, dans le métier, il est considéré comme un énorme branleur, quoi. J'en parlais avec Laurence Boccolini.
Oui,
elle a dû prendre une de ses émissions. Tellement Nagui, moins il en fait, mieux il se porte, quoi. Fainéant. Si vous avez de la chance, Lionel, monsieur, accepte encore venir une heure et demie par jour sur France Inter, mais à France 2, il l'appelle rien foutre, hein. Vraiment, toi. Non, l'article, c'était un entretien avec un anthropologue sud-africain qui, d'après lui, nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, ils travaillaient beaucoup moins que nous, mais ils étaient beaucoup plus heureux. Et honnêtement, je crois qu'il bluffe, Martoni. Parce que je crois qu'il sait pas vraiment cet anthropologue. En tout cas, je vois pas comment cet anthropologue, il peut affirmer que tous les gens étaient heureux il y a 13 000 ans, quoi. Peut-être il a trouvé des peintures rupestres avec écrit « Comment on est bien !» On a tout, sécurité sociale, plein d'emplois, on a tout. Mais non, comment tu fais pour évaluer l'état d'esprit des gens qui ont vécu il y a 130 siècles? Déjà, moi, aujourd'hui, je vais chez le psy, il me fait « Comment vous sentez ?» Je suis là « Ah, frérot, c'est complexe !» Vous êtes heureux? Ah, il y a une partie de moi qui est heureuse, il y a une partie de moi qui a envie de crever dans un beer pong, quoi. Vraiment, tu vois. Donc, en gros, la théorie de ce chercheur, c'est que nos ancêtres, ils travaillaient entre 15 et 17 heures par semaine, point barre, quoi. Le reste du temps, ils jouent à la plaie, quoi. Ils jouent à la plaie. Il y a des archéologues qui sont tombés sur un vestige de FIFA moins 13 000. À l'époque où le foot se jouait encore avec un hérisson. Et en moins 13 000, il n'y avait même pas la VAR, hein. Franchement. C'était le vrai foot, ça. By the way, sur les parois d'une grotte, on a retrouvé les classements de la Coupe du Monde au Paléolithique. Pas de traces de la France, hein. Alors que la Belgique, on a gagné la Coupe du Monde en moins 14 056, moins 14 052, moins 14 048. 3 étoiles d'affilée. Ça s'était jamais vu dans la préhistoire du football. Prends ça, Didier Deschamps. Mais bref. L'interview était assez passionnante sur la place irrationnelle qu'on donne au travail dans nos sociétés, quoi. Nos ancêtres, ils travaillaient juste assez pour se nourrir dans la journée, quoi. Si tu reportes ça à l'époque moderne, quelqu'un comme Daniel Morin, il travaille pour avoir mangé pendant les 900 prochaines années, quoi. Franchement, il fait 14 chroniques par semaine. Est-ce que ça le rend heureux? Ah, si oui, il le cache tellement bien. Il y a des vipères aspic qui ont le sang plus chaud que Daniel, quoi. Le matin, tu dis, ça va, Daniel? Tu fais, toi, fils de pute. Vraiment, c'est vrai? C'est vrai ou pas?
Malheureusement, c'est vrai.
Aujourd'hui, 9 fois sur 10, les gens, ils sont obligés de bosser pour leur salaire, et même s'ils trouvent pas le sens à ce qu'ils font, quoi. Tu vois, et souvent le salaire, il sert à acheter des trucs qu'on n'a pas réellement besoin pour faire tourner la roue du capitalisme. Et je tiens à remercier Thomas Piketty qui a relu mon texte et il m'a dit chapeau. Il m'a dit chapeau, mais la finesse de cette analyse politique. Il m'a dit, je sais, Thomas, je suis quand même quelqu'un qui lit le Courrier International. Alors je laisse un peu de temps. Donc, du coup, je me suis intéressé à la question du temps de travail dans la campagne présidentielle et j'ai lu que Philippe Poutou proposait la semaine de 28 heures sans perte de salaire. Question, pourquoi personne veut voter pour lui? Allez, il propose de travailler moins et de gagner autant. C'est gentil, non? Allez, je trouve pas que c'est gentil. Je trouve ça, c'est gentil, quoi. Moi, si tu me dis, tu fais une chronique par mois et tu gagnes autant, mais je te suce un orteil, je te rogne un ongle. Ce que vous voulez, les gars, franchement. Non, je vous raconte une histoire, je vous fais une couleur, je souffle dans un poisson.
Une couleur.
En vrai, je capte pas pourquoi un mec comme Poutou, qui a l'air honnête, il a l'air droit, il propose quand même des trucs gentils. Ça fait pas plus rêver les gens, quoi. On va me dire, ouais, parce que c'est irréaliste. Mais en France, t'annonces que tu vas renvoyer 2 millions d'étrangers, tu fais 15%. C'est plus réaliste, peut-être, tu vois. C'est vrai. Alors, ça, c'est pas marrant, mais c'est bien qu'on analyse, non? C'est joli. Je sais, en ce moment, je lis le Courrier International, je sais pas si je vous ai déjà dit. Non, mais le problème de la baisse du temps de travail, c'est que le temps, ça coûte cher, quoi, tu vois. À rien faire, le temps libre, ça coûte cher. Si je faisais pas cette chronique, là, je serais en train de boire un café à 3,50€, j'irais au ciné pour 12€, je montrais à Poney pour 160€. Ouais. Et encore, ils me font des prix au manège à Poney. Ils m'ont dit, ouais, les amis de rien foutre, c'est mes amis aussi. Allez, bonne émission.
Merci, Guillermo. Guillermo Guise, qui vient de lire le Courrier International, je sais pas si vous êtes au courant.
Fils de pute.
Mais ça va pas, non? Au théâtre de la Renaissance, Victorien Vouille, Lionel Astier avec ce lac des cygnes.
Ça, c'est la mort.
C'est la tempête.
Avec Axel Huet et Jade Rose Parker, qui est auteur de cette pièce. Jouer avec l'auteur, ça vous est déjà arrivé dans votre carrière, Lionel?
Oui, ça m'est arrivé une ou deux fois, oui.
Il a fait des centaines de pièces.
Non, mais c'est particulier.
60 au moins.
C'est particulier de jouer avec l'auteur.
Oui, c'est particulier, 3. Mais c'est vachement bien. C'est vachement bien. Parce que, effectivement, on a un petit peu fait bouger des fois le texte, très peu, parce qu'il est vraiment très bien, mais parfois il y a des petits changements.
C'est une question de tempo, de rythme,
ouais,
de vanne.
Non, mais c'est vrai qu'elle est là, et puis elle entre au deuxième acte, ouais. Elle a 45 minutes d'attente, et elle est là, elle écoute tout, et puis elle sait tout ce qu'on a, tout. Ça c'est bien, ça tu l'enlèves. Voilà.
C'est
non,
fort.
Non, c'est vachement bien.
Et vous aussi, Victoria Abril, jouer avec l'auteur, ça change quelque chose?
Et je n'ai fait que 3 pièces, donc c'est pas 60 comme on dit.
Non, mais on retrouve ce rapport avec le cinéma et le réalisateur qui est l'auteur du scénario.
Et ça n'a pas été écrit pour moi. Hein. C'était en 2019 quand j'ai lu la pièce, et c'est pas elle qui me l'a donnée, c'est Pascal Guillaume.
Et donc la vanne sur Pedro Almodovar,
elle était écrite.
Mais non,
complètement. C'était l'éprouve. C'était l'éprouve.
Non, mais je crois. J'étais
l'éprouve.
J'étais les croix. Mais...
C'est sur France Inter, on fait beaucoup d'efforts.
La musique, on va en parler dans vos vies, justement, avant de recevoir tout à l'heure Marie Zafi Mehini, qui est auteur du genre.
Ah, mais c'est quoi ce craquage?
Elle s'appelle Marie Zafi Mehini. Un peu de respect.
J'ai l'impression que tu avais mis 8 i.
Non.
Je te le crois.
Non, je te le suis demandé ce que c'était. J'ai voulu par respect ne pas me tromper dans le nom, donc j'ai pris le temps pour le dire.
Il s'est fou de moi.
Non!
C'est un scandale, Victoria.
Vous insultez ma femme.
Scandale.
Et oui, il insulte ta femme.
Mais pas du
tout. Il se moque de vous, Victoria.
Enfin, ta femme.
Enfin, Carlos.
Vas-y, continue.
Il a lu.
Et ta femme, ça veut dire quoi?
Non. C'est une belle... Là, c'est autre chose.
Non, c'est une référence à la pièce.
Je veux dire Courrier International.
Marie Zafi Mehini sera donc notre invitée tout à l'heure pour parler du genre, expliqué à celles et à ceux qui sont perdus. Pour l'instant, la bande originale de la, dans la musique, dans vos vies, dans les années 70, Victoria Abril, vous écoutiez.
Agora, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu. Eu quis fugir, mas você insistiu.
Vous comprenez le portugais?
Ah bah ouais.
Bah ouais.
Ah bah ouais.
Excuse-moi. Pas évident.
Ah bah ouais. J'ai fait tout un disque en portugais. Hein.
Oui, mais vous auriez pu apprendre la phonétique sans forcément le parler.
Et à l'époque, quand j'avais 14 ans, j'ai...
Vous parliez portugais?
Non, je parlais pas portugais, j'ai parlé à peine l'espagnol, et encore avec des fautes. Hein. Mais là, tu sais, la musique, c'est un langage universel, tu le comprends. Et après, évidemment, écoute, on avait cette vinyle et une cassette qu'on chantait dans...
Stan Getz et Joao Gilbert.
Stan Getz et Joao Gilbert. Et ça, on allait au Parc del Retiro avec une guitare et on chantait ces disques en boucle pendant des années. Donc c'est pour ça que 40 ans plus tard, j'ai fait Pucheros do Brasil.
Et que vous avez repris cette chanson.
Olé.
Ça, c'est la version de Victoria Abril.
Et au début des années 70, Victoria, on vous retrouve au cinéma. Vous faites vos débuts au cinéma grâce à votre professeur de danse.
Oui, classique, del conservatorio. Parce que j'y devais arrêter la danse pour commencer à travailler en septembre des secrétaires.
Vous vouliez être secrétaire, enfin, vous vouliez gagner votre vie, en fait.
Non, j'étais obligée à la maison à l'époque, ouais. À 14 ans, tu te mettais à travailler, tu arrêtais l'école et tu te mettais à travailler.
À 14 ans,
ouais. À 14 ans, voilà. Et donc, moi, je ne voulais pas. Et la professeure del conservatorio m'a dit, il savait que je devais quitter la danse pour être secrétaire. Il m'a dit, attends, mon mari cherche une fille pour... c'était obsession. Et cherche une fille, présente-toi et comme ça, tu peux retarder et encore d'un an le moment d'aller faire la secrétaire. Donc, je me suis présentée et on m'a pris. Donc, on a retardé. D'un an, les moments d'être secrétaire. Et je ne sais pas pourquoi, le deuxième film, c'était Richard Lester qui vient en Espagne tourner. On me voit dans une... On m'avait fait une portada des photogrammes.
Un portrait
La première page des magazines de cinéma, ouais. Photogrammes.
Oh, j'adore ce
jeu. Et grâce à cette couverture... Richard Lester a dit, je veux celle-là. Donc, on m'a amené, je ne savais pas du tout parler anglais, c'était avec Sean Connery, Audrey Hepburn, et wow. pas du tout, l'anglais comme les Brésiliens, je ne savais pas, mais j'avais une très bonne oreille. Et j'apprenais tout de mémoire, même les mathématiques. Je ne comprenais rien, mais je les apprenais les
tables
Non, pas les tables, les problèmes, tu sais, des mathématiques. Par exemple, un robinet sort 12 litres par seconde, combien de litres et tal. Et moi, j'apprenais... Par contre, si on m'est donné dans l'examen 15 litres, moi j'avais pris 12 litres.
Ah oui, d'accord.
Ça marche. Donc pas. J'apprenais tout de mémoire, je comprenais rien.
Et vous avez toujours une très bonne mémoire?
Oui. Oui, si, una memoria
de l'oreille.
D'oreille, très bien. Donc j'apprenais, je me suis fait dire en anglais ce que je devais dire, et là vraiment, je l'ai appris phonétiquement, et de toute façon, après, j'étais doublée par une anglaise. Je faisais la jeune reine d'Angleterre, donc évidemment.
C'est un film un peu érotique ou pas? On est en 75.
15.
Ouais.
Mais,
c'est semi-érotique.
Non, c'est pas érotique, la rose et la flèche.
Non, mais l'obsession.
L'obsession.
Ah, non, c'est une histoire d'amour blanche entre
les
maison,
oui.
et les petits garçons, ouais. Qui est amoureux de la fille. C'était... Non, c'était pas... Non, il n'y avait pas des nus. Les nus sont venus après, hein, dans la transition.
On y reviendra.
Mais pas dans ces films.
Vous écoutiez, quant à vous, Lionel Astier, et j'adore ce mec. Génial. Tout ce qu'il fait, c'est génial. Adriano Celentano.
Ah ouais, quelle voix.
Qui est chanteur, acteur, homme politique aussi. En Italie, présentateur à la télévision. Qu'est-ce qu'elle évoque cette chanson pour vous dans ces années 70?
Oh, ça m'évoque ma période aux Beaux-Arts, parce que j'avais un copain aux Beaux-Arts qui était en peinture, qui était italien. Ruggero Di Metto, il s'appelait. Ah ouais. Et c'est lui qui m'a fait connaître Celentano et Svalutation et
Preghero et
I Want to Know,
c'est ça. Voilà.
Vous êtes à Lyon à cette époque-là, Lionel, et vous vous inscrivez aux Beaux-Arts, parce que je pense qu'il faut rassurer les parents. Votre mère s'attendait à ce que vous développiez, je sais pas, un certain nombre de compétences pour trouver un métier sérieux, je pense.
Je vais le faire court, ouais. Mais entre l'âge de 10 ans et l'âge de 13 ans et demi, j'ai perdu mon papa et mes deux grands-pères en 3 ans. Et je suis devenu un cancre au lycée, tout ça. Et voilà. Et puis donc il fallait que... Donc je ne savais pas quoi faire de moi. J'avais quelques fulgurances des fois, j'avais des premiers prix des fois, un premier prix de dissertation par exemple, tout ça. Et il y a une prof de français qui a dit non, il faut pas le laisser tomber. Son père était prof de dessin. Il m'a fait faire du dessin, il m'a dit tu vas aller aux Beaux-Arts. Tu veux aller à Marseille ou tu veux aller à Lyon? J'ai dit je vais aller à Lyon, c'est en direction de Paris. Et voilà, et je me suis retrouvé aux Beaux-Arts comme ça,
Mais le coup de massue que vous avez reçu en perdant et votre père et votre grand-père, c'est-à-dire
Les deux grands-pères,
c'est-à-dire de toute la figure d'autorité de la famille entre guillemets.
Oui, puis plus que ça, mon grand-père maternel était aveugle et c'est lui qui m'avait appris à lire, donc j'avais passé des heures avec lui, m'asseyais sur une table, il me faisait parler, donc c'était des figures, ouais. Et puis en plus, j'étais le dernier des Mohicans à 13 ans et demi.
D'accord, c'était pas le dernier. C'est-à-dire,
j'étais le dernier de la famille.
D'accord.
Aujourd'hui, j'ai 8 petits-enfants, avec des petites filles, mais voilà, donc la famille s'est repeuplée, à l'époque.
Et vous êtes maintenant à la tête de la pyramide.
Voilà, oui, c'est ça.
Et puis c'est à la même période que vous commencez à prendre des cours de théâtre parce que.
Non, j'en ai jamais pris.
C'est pas des cours que vous prenez à Lyon à ce moment-là?
Non.
Alors comment vous entrez dans le théâtre?
Je pique la formule à mon pote Gérard Lanvin qui dit j'ai pas fait acteur par vocation, je l'ai fait, c'était une solution. C'était une solution pour moi. C'est-à-dire qu'il fallait que je gagne ma vie et c'était la seule que j'avais. À l'époque, c'était pas sérieux de
comme une urgence, tous les deux.
Je voulais dire comme moi, je suis actrice pour pas être secrétaire.
Voilà,
c'est ça.
Voilà. Et moi, je c'était une solution.
Vous avez ça dans
la notoriété, ça m'intéressait pas, je voulais gagner ma vie, quoi. Je l'ai fait d'ailleurs.
Et faire rire les autres. Ça vous intéressait déjà à l'époque ?
Je me posais pas ces questions-là et c'est venu après. C'est venu dans avec l'humour de familial, je dirais. On a beaucoup déconné.
Le sens de l'humour, c'est ça.
Avec mes fils, c'est venu après. Le plaisir est venu après. Et au début, c'était pour gagner ma vie.
Et c'est un sens de l'humour que vous qualifieriez de quelle famille? Parce que, est-ce que c'est une famille à la Audiard? C'est une famille à la Monty Python? C'est de l'humour anglais? C'est l'humour.
Effectivement,
bande dessinée. Enfin, vous voyez.
Oui, il y a beaucoup Audiard dedans. C'est-à-dire que, pour Alexandre, par exemple, qui est musicien, donc l'auteur de Kaamelott, lui, sa mère lui a donné le goût de la musique. Et c'est un musicien avant tout, en premier, avant d'être un acteur, avant d'être un scénariste, avant d'être... C'est un musicien. Et moi, je lui avais dit, écoute, moi, le seul musicien que je connais, c'est Audiard. Parce que c'est de la musique.
Ouais.
Et tu vas écouter. Et donc, on a commencé... Après, on coupait le son du film et on parlait à la place de Gabin et de Ventura. c'était de la musique.
Vous refusiez la post-synchro pour faire des vannes entre vous.
Mais je pense, je sais pas ce que pense Victoria, mais je pense qu'on est des musiciens, nous.
Oui, absolument.
Une comédie, c'est de la musique.
Ouais,
une comédie,
c'est
du tempo. À une demi-seconde près, il y a 50% de rire en moins.
Ouais.
Début des années 80, Victoria Abril, vous écoutiez Léo Ferré.
Poule.
Oui, poule pour rimer avec ma boule.
Ouais. Ah, mais... t'as ton cœur. Je crois que c'est Guy qui chantait.
Non. C'est comme la jungle et la jungle pour Gainsbourg aussi. C'était dans
Kenji Girac.
Elisa, merci.
Espagnol et Paul.
Joli môme Léo Ferré. Qu'est-ce que vous évoque cette musique, pourquoi l'avoir choisie pour les années 80?
C'est la même raison que pour Pucheros do Brasil. C'est ce qui est devenu 40 ans plus tard. Oh là là, c'est des chansons. Et quand je suis arrivée en France, je parlais pas français, encore moins l'écrire et pas du tout les lire. Et donc j'ai appris les français en lisant c'est-à-dire j'entendais
les paroles de Léo Ferré.
Oui, de Léo Ferré, des traînées, c'est-à-dire les plus belles auteurs. Et français. Moi, j'ai appris les français par les chansons. J'ai lissé les Bibles et comme ça, j'ai appris que E, A, U, ça sont O. Et tu vois, j'ai appris à lire avec les chansons.
D'accord.
Qu'est-ce qui vous fait venir en France en 82?
Et la mort.
Il faut traduire, parce que la mort, c'est l'amour. Parce que
l'amour.
Oui, pas la mort.
Vu le temps que tu étais employé, on avait compris.
Qu'est-ce qui vous fait venir? La mort.
Et l'amour. L'amour. Okay. Mais l'amour à mort. Tu te rends compte, j'ai quitté ma famille, mon pays, ma carrière. Parce que ça
c'est Enrico Macias.
Oui,
j'ai quitté ma famille, mon pays, ma carrière.
pour venir vivre mon histoire d'amour avec ces Français que j'ai trouvés au Portugal, même pas en France. Gérard de Batista, qui est un opérateur et cadreur, maintenant à la retraite. Donc, voilà, c'était pour vivre mon histoire d'amour.
Votre histoire d'amour. Ouais. Lionel Astier, vous écoutiez dans les années 80. Nobody knows you. Clapton.
Et à cette époque, Lionel, vous aussi, vous prenez la direction de Paris.
Oui. Oui, alors 80, en fait, ça correspond, 80, 81, ça correspond au moment où j'ai décidé de faire l'acteur. C'est-à-dire, je l'avais déjà fait avant, mais ça correspond à la décision. Alors c'est très curieux parce que à la fois la vie est des fois comme ça. Je m'en souviendrai tout le temps. C'est-à-dire, j'ai dit bon, maintenant je vais faire l'acteur. Une semaine après, le téléphone a sonné.
Pour un rôle, et
c'est depuis comme ça, voilà. Donc,
c'était quoi
prenez des décisions.
Voilà, c'est quoi votre premier rôle,
C'est pas la chance de tous les acteurs, toutes les actrices, parce qu'il y en a qui galèrent et qui attendent. Vous,
oui, c'est vrai.
Vous avez eu un alignement d'étoiles qui vous a protégé.
Comme je disais, il fallait que je gagne ma vie. Donc je me disais, il faut pas que je sois mauvais. Quoi.
Il y avait l'urgence.
Que je sois quand même un peu bon. Quoi, pour,
C'est vrai que c'est pas parce qu'on le décide que le téléphone va sonner aussi.
Il y en a plein
qui ont mais c'est vrai aussi que dans la vie, il faut vouloir pour pouvoir un tout petit peu.
Mais parfois de décider, ça met les choses au point avec l'entourage. C'est-à-dire tout d'un coup, les gens qui vous entourent, c'est que savent où vous êtes.
Oui. On va revenir sur Drôle de genre, cette pièce que vous jouez jusqu'au 14 mai au Théâtre de la Renaissance et en reparler avec Maryse Vimei. Pardon tout à l'heure pour l'hésitation que j'ai eue sur votre nom, Marie.
C'est
bienvenue, vous êtes journaliste.
Au nom du service public,
malheureusement,
pardon,
il n'est pas le seul.
Et auteur, et auteur avec Aline Laurent Maillard du genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus. C'est aux éditions Buchet-Chastel. C'est-à-dire qu'il faut commencer par expliquer LGBTQIA.
IP2CSAA.
Je sais plus, il y a beaucoup de lettres.
Ah oui, c'est un acronyme qui peut paraître un peu compliqué, mais c'est aussi un acronyme qui
Sur LGBT, tout le monde s'en sortait plus ou moins.
LGBT, oui.
Après, on a commencé à en rajouter d'autres.
Parce que c'est l'acronyme historique, si vous voulez, quand la communauté a été créée à la fin des années 80. Et ensuite, c'est vrai qu'il a varié au fur et à mesure des années que des personnes se sont reconnues dans certaines identités. Donc, par exemple, on a ajouté le Q pour queer, qui était une insulte à la base, en fait, en anglais, qui désignait justement ces personnes de la communauté LGBT. Et en fait, elles se sont réappropriées ce terme en disant, nous, ça nous donne du pouvoir, en fait, d'utiliser ce terme-là. Et aujourd'hui, le Q de queer, du coup, désigne toute personne qui ne se reconnaît pas, du coup, dans l'hétérosexualité ou le fait d'être cisgenre, qui est le contraire de transgenre.
Donc, queer, qui veut dire un petit peu étrange.
Ouais,
un petit
étrange,
peu louche,
bizarre.
Étrange,
voilà.
Oui, mais qui était une insulte aussi violente que peut l'être PD aujourd'hui.
Oui, voilà. À l'époque, dans les pays anglo-saxons.
C'était extrêmement
violent. Et puis après, on a rajouté d'autres lettres.
Mais ça veut dire que queer ne se reconnaissent ni dans lesbienne, ni dans gay, ni dans bi, ni dans trans.
Si, justement. C'est un terme qui englobe ces identités-là.
D'accord.
Mais il y a des personnes qui vont se définir, par exemple, trans et queer, et juste des personnes qui vont se définir juste comme queer, parce qu'elles n'ont pas envie d'utiliser les autres étiquettes.
Donc, le genre n'est pas aussi binaire que ça. C'est pas aussi simple que de dire garçon, fille. On parle pas de ce que l'on aime. Ceux, au pluriel, ceux avec qui on aimerait faire l'amour ou ceux dont on est amoureux. On parle de ce que l'on est ou ce que l'on ressent.
Ce en quoi on se reconnaît, en fait.
Ouais.
Le genre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une construction sociale, donc c'est différent du sexe biologique. C'est-à-dire que quand on est, les médecins regardent nos organes génitaux, ils nous disent, voilà, c'est une petite fille, c'est un petit garçon. Mais en fait, en grandissant, certaines personnes, en fait, se reconnaissent pas dans le genre qu'on leur a assigné à la naissance. Donc, c'est des personnes trans.
On leur a pas assigné un genre. C'est physiquement génétiquement, médicalement.
La nature, en tout cas.
Du coup, le genre, c'est une construction sociale. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la nature et la biologie. Donc, on leur a dit, sur la base de ces organes génitaux qu'on appelle féminin ou masculin, vous serez une femme, vous serez un homme.
Ouais.
Et après, en fait, c'est un peu la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. C'est qu'on apprend certains comportements qui sont associés à la féminité ou associés à la masculinité. On se reconnaît dans ces comportements, on se reconnaît dans ces expressions de genre qu'on a, les vêtements, les préférences.
Alors, pardon, comment expliquer on peut, je pense, assez facilement expliquer que l'on soit un garçon, une fille. On peut aimer soit un garçon, soit une fille. Ça, c'est une question d'histoire d'amour et d'envie. Mais comment expliquer le plus clairement possible si médicalement on est avec ses organes génitaux, de ne pas être en phase mentalement avec l'enveloppe dans laquelle on est?
Bah alors justement, il n'y a pas d'explication scientifique. Et si vous parlez aux personnes concernées, c'est comme l'homosexualité, elles vous diront, bah en fait, on n'a pas envie de l'expliquer scientifiquement parce que...
Non, mais c'est pour ça que je distinguais l'histoire d'amour. On aime qui on veut, ça, on est d'accord. Mais le fait de dire je ne suis pas en phase avec le corps dans lequel je suis.
Bah alors ça, c'est ce que je disais, les personnes concernées, elles disent qu'il n'y a pas d'explication. C'est juste qu'en grandissant, on ne s'identifie pas. Par exemple, si on a été assigné femme à la naissance, bah, en grandissant, on va s'apercevoir que on se reconnaît pas dans la féminité et qu'on va adopter plutôt des comportements associés à la masculinité. Et puis après, peut-être qu'on va discuter avec des personnes qui sont trans. On va s'apercevoir que le mal-être dont vous parliez tout à l'heure quand vous parliez de la pièce. Ces personnes-là vont développer une vraie souffrance et un trouble qu'on appelle la dysphorie de genre, qui est un vrai trouble qui a été théorisé par les médecins et qui aujourd'hui doit être reconnu par un psychiatre pour entamer toutes les démarches de transition de genre, par exemple, dans des parcours officiels.
Pour pouvoir changer de corps. Et ça, c'est possible en France, par exemple ?
De changer de corps. Alors
changer de sexe ou de changer de genre.
Alors on n'utilise pas ces termes-là, on dit qu'on va transitionner.
On va transitionner.
Exactement.
Faut que j'apprenne. Hein.
Le livre est là pour ça.
Maintenant c'est légal. Si c'est ça que tu demandes,
c'est légal.
Déjà, si c'est possible.
Bien sûr que c'est possible. Et depuis.
Oui, il y a des chirurgiens qui font des mammectomies, par exemple, pour changer la poitrine. On a des chirurgies de réassignation sexuelle aussi.
Et dans tous les cas, c'est un bien psychologique apporté à la personne qui a fait cette transition.
Oui, parce que les personnes trans, en l'occurrence, on sait qu'elles ont beaucoup plus de pourcentage de tentatives de suicide à cause de ce mal-être. Parce qu'en fait, c'est la manière dont elles sont vues dans la société qui leur apporte un mal-être fou, en fait. Et puis, aujourd'hui, c'est quand même compliqué quand sur ces papiers d'identité, on a un genre, donc celui qu'on nous a assigné à la naissance, qui est affiché, alors que nous, on se présente au monde dans le genre dans lequel on se reconnaît. Donc on va par exemple avoir une expression de genre féminine, et puis il y aura toujours le petit M sur sa carte d'identité. Et ça, c'est encore des démarches, c'est violent, il faut des lettres de proches qui disent moi je le connais sous ce prénom, là, je la connais sous ce prénom, ça fait tant d'années qu'elle se définit comme femme, etc. Et ça reste un parcours du combattant.
Le genre est aussi un problème à l'école, dans les jouets, dans les objets, dans les couleurs, rose pour les filles, bleu pour les garçons, de moins en moins.
De moins en moins, il y a une prise de conscience, mais on voit aussi que, en général, les industriels arrivent à trouver des parades en gardant, par exemple, les couleurs des boîtes, mais pas en disant c'est pour petites filles ou petits garçons. Mais il y a toujours ce bleu et ce rose. Il y a toujours des vêtements aussi belles que maman, aussi forts que papa. Et puis en fait, c'est ce qu'on explique aussi dans le livre, c'est que le genre, la binarité du genre femme et homme d'un côté, ça imprègne tellement nos sociétés. On parle des jouets, mais c'est le sport. Pensez aux JO, on divise tout le temps entre femmes et hommes. On pense aux rayons de vêtements dans les magasins.
Non, il y a quelques sports comme l'équitation, c'est pas le cas.
Ah, d'accord, je ne savais pas.
Il peut y avoir des hommes et des femmes dans la même compétition, d'accord, sans distinguer, sans chercher à savoir.
Du coup, c'est un peu l'exception dans le sport, parce qu'en général, quand même, c'est compétition femme d'un côté, compétition homme
d'un
autre.
Curling aussi, non? Curling, c'est pas un truc d'équipe.
Ouais.
C'est mixte.
Non, c'est possible. Quels sont justement encore les combats à mener, à votre avis?
Bah écoutez, quand je vois la récente polémique sur le pronom Yel, par exemple, je pense que la bataille, c'est surtout en fait de pouvoir s'informer sur ces sujets-là. Parce que je pense que dans l'opinion publique, on parle, on les brandit comme des menaces, alors qu'en fait, c'est juste des sujets qui permettent à des personnes de vivre sans souffrance et de vivre pleinement leur identité. Et c'est brandi vraiment comme une menace souvent venue des États-Unis, qu'on veut abolir le genre. Personne ne veut abolir le genre, mais en fait, on voudrait juste que des personnes puissent vivre leur genre comme elles l'entendent.
Oui, mais en l'occurrence, si elles changent de genre, elles choisiront ou l'un ou l'autre, pas un troisième.
C'est encore en discussion. Il y a certains pays qui ont instauré le genre neutre. Ouais. Je crois que c'est l'Allemagne récemment qui l'a fait. Et donc du coup en France, il y a eu des mouvements, notamment de personnes intersexes. Donc les personnes intersexes, c'est les personnes qui à la naissance, en fait, juste sur la base de leurs organes génitaux, on ne peut pas dire clairement c'est une fille ou un garçon. Donc ces personnes-là existent. Et donc on peut même se demander si le sexe biologique au final est binaire. C'est quand même quelques pourcents de la population. Je crois que c'est de 1 à 4% de la population qui est intersexe.
Hermaphrodite.
Non, faut pas utiliser
c'est
ce
pas
terme.
Pareil, non, faut pas.
Non. Ok. Ça renvoie à un imaginaire monstrueux et les personnes concernées n'aiment pas le terme intersexe.
D'accord.
Mais il a un côté monstrueux. Hein,
un côté escargot. Quoi. C'est pour ça
non, mais tout le monde fait des erreurs et c'est aussi pour ça qu'on a écrit ce livre. C'est qu'on sait que c'est pas évident à appréhender au début.
C'est bien d'en parler et d'expliquer.
Voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Si on explique et si on se braque pas.
C'est pour ça qu'on a tenu à ce que vous soyez là et de me rectifier, pour mettre dans le droit chemin. Merci. Marie Zaminei. Zafi Mehi, évidemment, qui a dit l'inverse. Marie Zafi Mehi avec Aline Laurent Maha, comme ça j'aurais écorché tous les noms. Non, c'est Maillard, je blague. Ça s'appelle Le Jean expliqué à celles et ceux qui sont perdus aux éditions Bûcher Chastel. C'est la bande originale avec les Morgane Gabinier.
Bonjour.
Guillermo Guinstan, qui passe sur
Bonjour.
Daniel Morin.
Coucou Morgane.
Et nos invités, Victoria Will et Lionel Astier. Parlons de drôles de genre au théâtre, donc, avec Axel Huette et Jade Rose Parker. Ce qui est bien, c'est que on a continué de parler, évidemment, après le passage de Marie Zafi Mehi.
Bravo!
Tu vois? C'est une question
Il
de...
Il a fallu qu'elle parte.
Et c'est sûr, mais je ne voulais pas céder devant son regard. Non, mais on a continué de parler parce que justement, ça prête à débat, ça prête à discussion. C'est peut-être la meilleure chose, d'ailleurs, qui puisse se passer pour une pièce de théâtre. C'est-à-dire faire rire, divertir. Mais faire réfléchir aussi.
Oui, oui, oui. Et même que François fait un moment donné, il demande au public, il fait, comment se llama ça, Una ?
Un sondage d'opinion.
Un sondage d'opinion. Et qu'est-ce que tu leur dis ? Qu'est-ce que tu leur dis ?
Il parle l'espagnol, en fait.
Et il demande aux gens, est-ce que vous pensez que j'exagère ?
Mais il y a aussi des moments d'émotion. Vous faites un monologue extrêmement émouvant. D'ailleurs, on s'attend par moments à ce que la salle applaudisse à ce moment émouvant.
Ils l'ont fait depuis 4 semaines,
voilà,
tous les jours.
Parce que c'est quelque chose de fort, qui n'est pas fait pour être drôle et qui vient comme ça d'une manière un tout petit peu intemporelle faire tout un sorte de plaidoyer, une espèce de plaidoyer pour la tolérance.
Oh, attends, j'ai pas 1h20 à me faire insulter et dans tous les sens, donc il faut bien qu'à un moment donné, tu vois, elles disent quelque chose et elles fassent aussi pas une enquête d'opinion, mais quand même et qu'ils demandent aux gens est-ce que j'ai le droit d'exister ou pas ? Est-ce que c'est
oui, non,
crime.
Je parlais du monologue, je parle pas du sondage fait dans la salle.
Non, j'étais pas de mon monologue.
Voilà, c'est ça.
Où le public applaudit à la fin.
Ou Axel Huet, d'ailleurs, pour en revenir au sondage, choisit entre le carré d'or et les corbeilles.
C'est
aussi.
Ça, c'est ça.
Parce que c'est vrai que les opinions ne sont pas forcément les mêmes fonctions du rang social.
Ils sont extraordinaires, les deux, hein, faut le dire quand même. Ouais. Jade Rose Parker, bien sûr, c'est un auteur pour moi, de génie. On commence à en parler, on va en parler beaucoup, mais les deux, ce sont deux acteurs extraordinaires. Et en plus, je dois le dire, ils sont très bien élevés.
C'est-à-dire que
ils sont propres à
ça. Ils nous disent, on vous regarde jouer dans les c'est une leçon, on vous regarde jouer, c'est pas vrai, ils sont meilleurs que nous, mais ils ne nous font pas sentir.
Très élégante votre part, Lionel. Très classe. Théâtre de la Renaissance, drôle de genre, voici venir Tanguy Pastureau. Enfin.
Ah, c'est terrible de se faire trahir par un membre de sa famille. Prenez César, pas la pâtée, hein, le monsieur. Il était là au Sénat, à Rome. Je sais pas ce qu'il faisait, mais si ça marche pareil que le Sénat à Paris, il devait digérer. Quand soudain, son fils Brutus le poignarde. César, avant de mourir, a juste le temps de dire tout coco et mi fili, parce qu'à l'époque, tout le monde parlait super bien latin. Ah, on n'était pas sur l'école au Ravet de Jean-Michel Blanquer. Et les Arabes? Les Arabes, c'est encore mieux. Ils n'en étaient pas à faire des maths. Ils créaient les maths. J'espère que Laurent Romeshko n'est pas raciste. Parce que sans les Arabes, les chiffres et les lettres, ça serait juste les lettres. Si jamais il était payé à la minute, ça lui ferait plus qu'une moitié de cachet, pour peu qu'il soit polygame, parce qu'on voit bien dans ses yeux qu'il ne vit que pour le sexe. Au buffet Flunch, il pourrait donc payer que pour une seule de ses femmes. Alors les autres s'en iraient. À quoi bon être avec une star de la télé si c'est pour vivre à deux, comme le dit souvent Arlette Chabot à ses 14 concubins, qui tous s'appellent René parce qu'ils ont son âge. Hein, les trahisons familiales, il n'y a pas pire. Prenez Xavier Dupont de Ligonnès. Mais j'imagine que la veille du meurtre, sa sa femme a pu lui dire « Mais pourquoi cet abonnement à Terrasse Mag ?» Elle avait dû remarquer qu'il n'avait plus que des copains portugais. Autre exemple, Henri VIII, roi d'Angleterre au XVe siècle. Il voulait plus de sa femme. Hein, il s'était lassé, forcément, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Netflix, les gens discutaient. Donc forcément, ils se lassaient plus vite les uns des autres. Hein, les couples maintenant au resto sont chacun sur leur portable. Certains, au bout de 10 ans, se sont parlé une fois. Ça permet de cultiver le mystère. Regardez dans Fort Boyard, Passepartout, qui ne parle pas. Tout le monde a envie de se le taper. Alors qu'Olivier Mine, qui passe sa vie à crier tête de tigre, enfin des trucs de gardien de zoo qui se serait fait retourner par Daesh, quoi. On a juste envie de lui dire, mais tais-toi! Eh ben, Henri VIII, pour se débarrasser de son épouse, l'a accusé de coucher avec son frère à lui, ce qui se fait encore chez nous dans les Vosges. Et donc, il a décapité les deux. Mieux, le lendemain de l'exécution, c'est véridique, il s'est fiancé avec une nouvelle femme. À lui, sa période de deuil était très, très courte. Hein, le temps que la première larme lui coule sur la joue, il était déjà en train de tourner les serviettes à son banquet de remariage. Mais les trahisons familiales, ça a toujours existé. Tenez, hier.
Quoi ?
Oui, hier. Marine Le Pen, l'éleveuse de chats, elle en a plein, elle traîne plus dans les poils que Rocco Siffredi en 30 ans de carrière, a vu partir sa louloute, Marion. Comme un coup de couteau dans le dos, comme un coup de latte dans la tête, comme la chanson des Bretons de l'Eurovision, si on avait prévu de passer la soirée à chiller. Marion Maréchal a rejoint Éric Zemmour. Oula. Marion, née en 1989, est la nièce de Marine. Elle a grandi avec elle, ainsi qu'avec Minouche, Gribouille, Chippy, Simba, Filou, Kaline, Roméo et Caramel, des chats. On réalisera plus tard que le chat Fripouille est en réalité Sylvain, un oncle qui s'était déguisé en chat sur 15 ans dans la seule intention de se faire caresser. Marine, le 28 janvier, a déclaré sur CNews: j'ai avec Marion une histoire particulière car je l'ai élevée avec sa mère pendant les premières années de sa vie. Ce à quoi le père de Marion a répondu, c'est faux, elle a juste assisté à l'accouchement. Mais quand on est spectateur, un accouchement, ça peut sembler très long. Au départ, Marion est proche de Marine. Elle se fait d'ailleurs appeler Marion Maréchal Le Pen. Dommage qu'elle n'ait pas été avec Richard Ferrand, ça aurait fait Maréchal Ferrand. Et en France, un calembour plus un vieux métier du passé, on est élu au premier tour. Puis, parce que c'est la vie tout simplement, et que la vie globalement est triste, à part quand on fait soirée pizza, les deux femmes s'éloignent. En 2016, Marion soutient la Manif pour tous, dont le slogan est « Un papa plus une maman », sans révéler la suite du slogan, qui est « Ça peut quand même générer une tripotée de petits connards ». Marine, elle, est contre la Manif pour tous. Marine, dans une interview à Valeurs Actuelles, dont sur Google Maps, elle a tagué l'adresse sous l'appellation « Mon domicile », dit de Marion qu'elle est trop rigide, ce que Marion, depuis le dessus des tréteaux où elle sert de table, nie fermement. En 2018, elle retire Le Pen de son nom. Elle s'appelle juste Maréchal, ce qui, au vu de l'histoire de France, est le nom le moins rassurant possible, à égalité avec Tempête Xynthia et single de Sting en duo avec Mylène Farmer. La suite, vous la connaissez. Hier à Toulon, Marion a rejoint Eric sur scène, micro à la main, comme les jeunes du stand-up. J'ai cru qu'à la fin, elle allait dire « c'est tout pour moi », lâcher le micro et se barrer. Hein, puis derrière, Zemmour aurait crié « elle a mis le feu ou elle a pas mis le feu, Toulon ?» Alors bien sûr, Marion a justifié cet abandon de famille. Elle a dit « Éric Zemmour est le mieux placé dans cette élection présidentielle ». Bah heureusement que c'est pas Jean Lassalle, hein, parce qu'elle se retrouvait à picoler à la fête de la liqueur de Châtaigne de la Vallée d'Aspe, hein, avec un bras en vrac après s'être mal reçu à la fin d'un paquito. Hier, Marine Le Pen regardait sans doute le meeting de Zemmour et Marion en serrant fort contre elle Grisou. Meeting retransmis sur BFM sans le son, le candidat ayant déjà épuisé l'intégralité de son temps de parole. Hein, forcément, on le voit partout, sur toutes les chaînes, depuis 6 mois, parce qu'il est télégénique, Marion aussi. Et leur omniprésence médiatique m'a rappelé cette chanson de Passy avec le sample, justement, des Feux de l'amour, le feuilleton des trahisons familiales.
La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre
et de Zemmour à la télé. Bisous.
Merci Tanguy.
Et Tanguy, on se retrouve sur scène le 19 mars à Bourg-les-Valence.
Oui. Là, je crois que tout est dit.
Mais qu'est-ce qu'il y a?
À papa et maman.
Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Il n'y avait, avait pas le son. De...
Non, ils n'ont plus le... ils peuvent plus diffuser le son. Il a trop parlé. On l'a trop entendu.
Donc,
c'est, c'est intéressant de regarder.
C'est ouf.
Et commenter pendant ce temps-là. Et commenter.
Voilà. Voilà. Et par contre, il diffuse du Philippe Poutou en boucle parce qu'il a de 16 000 heures à rattraper.
Pour rattraper.
Voilà.
Au théâtre de la Renaissance, Victorien Abril, Lionel Astier dans cette pièce drôle de genre. Une pièce extrêmement rythmée. C'est vrai que vous avez rappelé tout à l'heure l'importance du tempo, du rythme dans la musique, dans la comédie. C'est réglé comme du papier à musique, et puis on sent votre plaisir d'être sur scène, de jouer.
Soir.
Mais non, mais ça se sent.
Vrai.
Ça
chaque
se sent.
Soir.
Vous aviez jamais joué ensemble?
Non.
Et c'est un plaisir récent
pour moi. Je les
connaissais
par Camelot.
Camelot, oui, si. D'Alexandre.
Et pour Camelot. Vous, Victoria...
D'ailleurs, quand est-ce qu'il va venir, ton fils?
Ben, je sais pas.
Il paraît que toutes les femmes vous disent ça. Hein.
Et pour vous, Victoria, le théâtre aussi, c'est un plaisir assez récent, en fait. On vous avait vu dans Paprika.
Ouais, en 2018.
Pièce de Pierre Palmade. Ouais. Vous disiez que c'était quoi, votre troisième pièce, là?
Ouais. En France, c'est la troisième.
Et qu'est-ce que... Pourquoi pas plus?
Parce que j'ai du mal à trouver une pièce qu'au bout des 10 lectures, et j'ai continué à être...
Passionnée,
intéressée.
Et là, c'est le cas.
Et pour, oui, là, c'est le cas. Paprika aussi. Et la première, c'était en 87. C'était Nuit d'ivresse, où j'ai... Nuit d'ivresse et Jocelyn Balasco avec Junior.
Au théâtre de la Renaissance, très beau théâtre de la Renaissance, donc cette comédie drôle de genre, on continue d'en parler. Et puis il y a d'autres événements culturels.
Oui,
là, cadeau
Rodé. Bien sûr. On va parler d'une chanson qui nous vient du Brésil. Écoutez.
C'est une reprise?
Non, c'est une chanson qui est au cœur d'une polémique au Brésil en ce moment. Elle est sortie en 66, c'est
alors,
vous dire.
À cause des paroles?
Exactement, à cause de l'histoire que ça raconte.
Ça raconte quoi, Victoria, cette chanson?
Ça, je comprends pas. Je la connais pas.
Ah bah, tout à l'heure, on m'avait dit que vous parliez portugais.
C'est une chanson de Chico Buarque.
De Chico Buarque, ok.
C'est l'histoire d'une femme, en fait, qui...
devient un homme.
Non.
Non, ou qui s'intéresse à un enfant.
Non.
Ah bon.
Non, mais en tout cas, c'est...
Ou un jeune ado.
Pourquoi ça fait polémique en ce moment au Brésil, d'après
vous? C'est une histoire d'amour?
C'est une histoire d'amour, oui, mais une histoire d'amour...
défendue?
Non, pas défendue.
Différence d'âge?
Non plus.
Une femme qui aime une femme?
Non plus, pas homosexuelle. Non.
C'est compliqué, cette histoire de Brésil.
Ah là là, ouais. Une femme qui aime Poutine.
Ça fait réagir les... Ça fait réagir...
Je cherche un truc choquant. Hein,
En 66, déjà. C'est... Ça fait réagir les féministes en ce moment au Brésil.
Ah, qui aime un homme qui la bat, non?
C'est pas loin de ça, je vais te l'accorder, Guillermo. C'est l'histoire d'une femme qui souffre en attendant le retour de son mari. Et puis un des féministes le reproche à Chico Buarque d'avoir écrit une chanson machiste.
Et parce qu'elle souffre, parce que son mari n'est pas là?
Ouais.
Alors la moitié des chansons de country, Stand By Your Man, etc., où il s'agit d'excuser les hommes qui battent les femmes, elles vont passer aussi.
Non, mais
à la trappe.
Mais si tu as parlé à Roméo et Juliette, Juliette a souffert aussi de son amour avec Roméo.
Je ne suis pas en train de défendre le propos, mais en tout cas dans l'histoire, on raconte qu'elle fait un gâteau, le gâteau préféré de son homme, alors qu'il traîne dans un bar, et finalement quand il revient, elle est là, elle lui réchauffe son assiette, les bras ouverts. Bref, les féministes en ce moment au Brésil considèrent que c'est un texte qui ne donne pas qui va pas dans le bon sens des choses, tout simplement. Est-ce que justement on va un peu loin en ce moment sur cette relecture de l'actualité de la culture même, tout simplement? Qu'est-ce que vous en pensez, Victoria?
C'est woke.
Bah, j'y comprends rien.
En tout cas, ça fait réagir au Brésil. Étonnant, je vous le livre comme ça. Autre question, quel objet culturel a connu une expansion jamais vue grâce à la crise du Covid?
Quel quoi?
Les masques.
Un objet culturel.
Le masque de Venise.
Le livre, la bande dessinée.
La bande dessinée.
Sans doute le livre et la BD, bien sûr, mais c'est pas ce qu'on recherche là.
Le
c'est
canard vibrant.
J'adorerais, Tanguy. J'adorerais.
Les jeux de société.
Bravo, ce sont les jeux de société, en effet. 30 millions de boîtes auraient été vendues dans l'Hexagone en 2021.
Avec rien dedans.
Des boîtes.
C'est une arnaque.
Les gens sont des chats.
Le marché du jeu de société pèse énormément en France, depuis 640 millions d'euros quand même pour ce marché du jeu.
Ça pèse
un tout petit peu. Est-ce que vous avez des jeux de société, Madeleine, des jeux que vous adorez?
C'est pas Madeleine, c'est Victoria.
Il est chaud. J'ai pas le temps. Est-ce que vous jouez aux jeux de société?
Pas du tout.
Et vous, Lionel?
Quand je suis obligé, oui.
Avec tous les petits enfants, vous êtes obligé. Et vous jouez à quoi avec les petits enfants?
Je me rappelle plus.
Comment ça?
Non mais attendez, pardon.
Donnez-moi des noms.
Vous êtes conscient quand vous jouez avec les enfants.
Milborn.
Oui, au Milborn.
Uno.
Milborn, voilà.
Le Uno.
Le Uno, voilà.
Très bien.
En fait, vous jouez à plein de jeux.
Est-ce que vous avez joué au président? Président.
Le jeu de loi.
Président trou du cul. Un jeu.
Oui. Oui, si.
Trou du cul.
Oui, trou du cul.
Rappelez-le Nagui. Ça sera plus simple.
Vous êtes trop rapide aujourd'hui.
Non, il y a le tabou, trivial poursuite, monopoly.
C'est trivial poursuite, oui, voilà.
Il y en a plein. Pas du tout, vous.
Pas du tout. De toute façon, là, quand les corona est arrivé, mes enfants étaient grands et chacun chez soi. D'ailleurs, j'ai vu mon fils qui habite dans les 18e deux fois dans l'année. Deux fois en 2020.
Ouais. Mais par 2020, exemple, pour en revenir au jeu, vous n'aimez pas ni les jeux d'échecs, ni le backgammon, ni les jeux de dames, tout ça,
non,
vous n'aimez pas ça. Les jeux de cartes,
le tarot,
non.
La belote,
non.
Le rami,
la contrée,
la crapette.
Disons, franchement.
Je sais pas, le 8 américain.
Ouais. Le 8 américain.
Ah, c'est bien le 8 américain, non,
la bataille.
On aura essayé.
Le solitaire.
C'est exactement, on se sent solitaire. Drôle de genre au théâtre de la Renée. Au théâtre de la Renaissance jusqu'au 14 mai, Victoria Will, Lionel Astier. Est-ce que vous avez un cri de guerre avant de rentrer sur scène? Vous mettez tous les quatre.
Vous passez les fesses.
On se pétrit les fesses.
On se pétrit les fesses.
Alors attends, ouais. Parce que moi j'ai eu le droit à ça avec Victoria. Sur la première de Paprika pour la captation pour France Télévisions, on a filmé ce moment-là et je me suis fait choper les fesses.
Par Victoria?
Ça veut dire que dire que chaque fois tu fais la même chose, tu touches les fesses de tout le monde?
Ah, bah, moi,
ils se croyaient exceptionnels, Lionel.
Ça porte bonheur.
Mais on dit un truc important.
Ok.
Cada día. Justement, vous en parliez tout à l'heure. C'est-à-dire chaque jour, on la re-raconte comme si on ne la connaissait pas, cette histoire. Et que,
génial.
Voilà,
génial. Chaque jour, il y a le héros du jour. C'est Daniel Morin.
Ah,
d'où Jésus. Alors, aujourd'hui, les amis, mon héros aurait pu être le poulet.
Oui.
Le poulet français, victime de la grippe aviaire, et dont tout le monde se fout en ce moment. Mais oui, plus de 500 foyers contaminés, c'est au-delà de la pandémie, au-delà de l'épizootie. C'est un massacre, un génocide. Et sachez que je suis de tout cœur avec vous.
Avec les poulets?
Oui, je suis de tout cœur avec vous. Poulets, cocottes, bêtes à plumes de tout poil. Non, je n'oublie pas les efforts quotidiens que vous fournissez pour pondre l'œuf nourricier. Non, je n'oublie pas le sacrifice, pour ne pas dire le martyr. Tais-toi, auquel vous vous soumettez pour que chez KFC, on ait du blanc à faire frire pour nourrir une population chaque jour plus avide du croquant des nuggets et autres pilons délicieusement trempés dans l'huile infernale. Solong, ami oublié, dont tout le monde se fout, vous êtes et serez à jamais présent dans mon cœur, volaillophile. La volaille aurait pu être mon héros du jour,
mais...
Elle ne l'est pas. Non, elle ne l'est pas, et ce pour une raison simple. Une étude sociétale récente m'ayant littéralement bouleversé ce week-end. Figurez-vous qu'en Europe, il est de plus en plus fréquent et accepté que l'on couche avec les partenaires de ses amis. Ce n'est pratiquement plus considéré comme une tromperie. Mon héros du jour est donc le sexe avec les partenaires des amis, le sexe libre. Alors bien sûr, certains grincheux, je les entends d'ici, diront « Mais quel scandale, une société sans repère moreux d'une société pervertie qui court à sa perte. Les gens n'ont plus de tenue, les gens sont devenus des slips. » Eh bien, à tous ces mauvais coucheurs, je dis « Vos gueules ». Oui, vos gueules, car coucher avec les partenaires de ses amis, sans que ça éveille de la rancœur, moi j'appelle ça du progrès social. Parfaitement du progrès social. Rappelez-vous ô combien il est oppressant ce sentiment de culpability quand on couche avec la fiancée de son meilleur pote. Ô combien il est inconfortable, cette sensation de gêne quand ils sont tous les deux dans la même pièce à se faire des mamours. Eh bien, en croire cette étude, c'est fini tout ça. On peut aujourd'hui coucher sans craindre l'arrivée furibarde d'une inimitié motivée par la jalousie. Et profitons-en, les amis. Faisons comme les Lolo Romeshko, les Arlette Chabot. Profitons-en pour élargir nos horizons, pour sortir de notre zone de confort érotico-éthique en étant curieux. Guillermo couche avec ta femme. Tu coucheras bien avec la sienne, mais Guillermo n'a pas de femme à lui. Alors, tu fais quoi? Mais tu couches avec Guillermo.
Ah non.
Oh, pas de souci. En plus, je le connais. Il sera sûrement d'accord. Surtout depuis que ce matin, Poutou a ses 500 signatures. L'amitié n'en sera que renforcée. Allez, vive l'amour avec les partenaires de nos amis. Vive le sexe libre. Vive la France, mon Agui.
Merci, Daniel.
Et dimanche, Daniel, on te retrouve avec la tournée des humoristes de France Inter. Tu seras à Lille.
Absolument.
Pachou.
Donc, quelle salle? Zénith?
Exactement, le Zénith de Lille, qu'on a dû agrandir. Mais non, c'est pas le Zénith de Lille.
Non, je sais pas.
On est interdit de Zénith.
C'est pas le Sébastopol, non?
Si.
Oui.
Ah, d'accord. Mais c'est vachement bien, de toute façon. Ça, vous allez vous régaler.
Oui.
J'ai 2-3 adresses au resto à te filer dans la rue de Piétonne.
Les
projets, Victoria, le théâtre, on sent que c'est...
Bon, bah, on va voir qu'est-ce qui se passe, si...
Vous allez partir en tournée avec cette pièce, j'imagine.
Bah, normalement, on voudrait partir en tournée. Maintenant, il faut voir. Non, non, en 2022, là.
Bah, en 2022, vous êtes un peu au Théâtre de la Renaissance, donc vous pouvez pas parler.
Mais on est au Théâtre de la Renaissance à la rentrée. Ah, à la rentrée.
Okay.
Mais enfin, on sait pas encore si ça va être possible.
Ok.
Et dans les sens.
Et de quoi avez-vous envie, alors, de jouer dans un...
Non, moi, j'ai envie de jouer drôle des genres pour tous. Et, mais on ne sait pas si le pass sanitaire il va être juste suspendu la semaine prochaine et il ne va pas revenir. Il est suspendu, il n'est pas enlevé. D'ailleurs, c'est le pass vaccinal qui est suspendu, mais le pass sanitaire reste. Les non vaccinés, les soignants, les pompiers qui n'ont pas le droit, ils continueront pareil. D'ailleurs. Je trouve ça très injuste. Non, non, non. Donc, ça veut dire que si on vote la même chose encore pour 5 ans...
C'est supprimé, Victoria.
C'est suspendu.
D'accord.
Mais enfin, ce n'est pas supprimé.
Non, mais d'accord.
Ce n'est suspendu, c'est-à-dire juste
mais
pour qu'on lui vote, et puis après, il le remet à partir de...
Mais on ne sait pas.
On ne sait pas.
Vous avez des informations?
J'ai bien vu, le pass sanitaire, il a imposé en juillet, pour que les jeunes se vaccinent pour pouvoir partir en vacances. Et les passes vaccinales, il a été imposé en janvier.
Il y avait une épidémie, si vous avez raté l'information.
Ah oui, mais là, il n'y a plus d'épidémie, tous les pays
natals.
Et on met les passes vaccinales. Non, on enlève pour les votations, pour les élections. Mais ils ont bien dit, c'est suspendu, c'est pas éliminé.
Ouais,
donc,
on verra.
Ça veut dire, on verra.
Jusqu'au 14 mai.
Jusqu'à 14 mai.
Jusqu'au deuxième tour.
Après le deuxième tour.
Et après, vous jouez dans un film, vous avez des projets de tournage?
Et j'ai un projet de tournage d'une série juste le 24 mai en Argentine. Et,
ah ouais.
Et puis après, et voilà, si on peut faire drôle des genres pour tous, en octobre, il y aura la tournée. Et si on peut pas faire drôle des genres pour tous, j'ai une possibilité de théâtre en Espagne avec Carlos Saura.
Très bien.
S'il n'y a pas de confinement.
Voilà, c'est ça.
Alex... Ah non, excuse-moi, en Espagne, à Madrid, il n'y a pas eu de confinement.
Ah, Alex Hugo, que c'est une série donc, dans laquelle vous avez tourné le dernier épisode, c'est fini?
Non,
Alex
je vais Hugo. Le tourner après. Je le tourne pareil, le 24 mai, moi je le tourne aussi.
Ah bah, c'est une grosse journée le 24 mai pour tous les deux.
Oui.
Et il y a Je te promets également que
voilà.
Vous allez reprendre.
Pareil, cette année, oui.
Pour TF1.
Alors je ne sais pas quand encore, mais oui... à l'automne.
Très bien. Pour l'instant, drôle de genre, c'est au Théâtre de la Renaissance, ça c'est sûr. Des excuses à présenter, Daniel?
Alors désolé déjà pour le corps de Leïla qui a pris cher ce week-end, mais tellement cher puisqu'on l'a compris pendant le blind test, elle n'entend plus rien depuis qu'elle n'a plus de
nez.
C'est bizarre. C'est le début de la fin. D'ailleurs, selon mes infos, demain elle aura perdu la vue puisqu'elle développe un panari. Désolé pour Lionel Astier qui a découvert ce matin l'élégance, le sens de l'accueil cher à cette émission et particulièrement à Nagui.
C'est le gros beauf.
Eh oui, ne le remerciez pas. D'ailleurs, selon mes infos, il a craché dans votre poche et il a fait pipi dans vos chaussures. Désolé pour la langue française qui a été martyrisée par Victoria. Et les noms des invités aussi ont pris cher. Et ils ont été particulièrement sagouinés par notre ami Nagui.
Marie Zafimeini.
Voilà, très bien Nagui. Alors demain, c'est Pierre Ninet, pas Pierre Ninet. Et Emmanuel Berco, pas Emmanuel Nénénénénéné. En tout cas, je crains le pire.
Demain, Emmanuel Berco et Pierre Ninet seront nos invités.
Bravo.
Merci Victoria Will, merci Yonel Astier, passez une bonne journée. Merci.